RMC, les grandes gueules.
Proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Il faut aussi davantage responsabiliser les parents. Nous proposerons au Parlement que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcées à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs.
Voilà, Elisabeth Borne qui annonce l'encadrement de mineurs condamnés par la justice par des militaires. Alors, il y a un centre de ce type qui doit ouvrir ses portes à Mayotte d'ici 2024. Et puis, elle veut muscler donc les sanctions qui visent les parents. Donc, on va mettre des moyens en place pour les faire payer, hein, pour, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, hein, il y a eu près de 800 millions de dégâts, hein, pendant les émeutes, donc faire payer les parents, et pourquoi pas prononcer des peines de travaux d'intérêt général pour ces parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Ça sera pas ça, parce qu'il faudra prouver que ces parents sont défaillants, et s'ils sont défaillants, ils pourront faire des TIG, une sorte de réparation. Alors, est-ce que tout ça, d'ailleurs, juridiquement, ça tient, et est-ce que surtout, ça peut être efficace? C'est la question qu'on vous pose au 32-16 et qu'on pose aux grandes gueules. Je me tourne vers l'avocate
Je suis encore, je suis avocate honoraire quand même.
Alors Marianne Soubray, tout d'abord, explique-moi, est-ce que ces peines de travaux d'intérêt général, c'est facile à mettre en place pour les parents alors que ce ne sont pas eux directement qui ont fait les délits?
Alors, en fait, c'est pas la peine n'est pas prévue parce que leurs enfants ont commis des délits. La peine est prévue parce que les parents auraient commis le délit en fait de délaissement de mineurs, en fait, ce qu'on appelle délaissement de mineurs, c'est-à-dire qu'ils auraient été des mauvais parents.
En fait, c'est un délit, hein.
Oui, voilà.
Pas bien,
ils ont manqué à leurs obligations parentales. Voilà. Ils n'ont pas bien surveillé leurs enfants. Ils n'ont pas veillé à ce que leurs enfants soient en sécurité, etc. Et donc, à ce moment-là, parce qu'ils ont commis ce délit, on peut effectivement, c'est une peine qu'on peut prononcer, s'ils sont d'accord, on peut les condamner à une peine de travaux d'intérêt général. Donc effectivement, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut que les parents soient d'accord. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que jusqu'à présent, alors c'est vrai que c'était une piste qui avait été ouverte par le garde des Sceaux, en fait, qui avait dit on va poursuivre les parents, etc., etc. Donc jusqu'à présent, on n'ouvrait pas cette piste, ouvrons-la. Par contre, Elisabeth Borne nous réinvente en fait la roue, puisqu'elle nous dit on va faire payer et on va aller vers la responsabilité civile des parents. Mais elle existe depuis 1804 en fait. Donc je veux dire, elle nous invente un truc qui est dans le code civil.
C'est une bonne règle de la REMS.
Oui, non, mais je veux dire, elle nous invente un truc qui existe depuis 1804.
Mais qui n'est pas appliqué. Donc,
qui devrait être appliqué, qui peut-être n'est pas suffisamment appliqué, c'est possible. Mais moi, je l'ai déjà mise en cause. Enfin, je veux dire, on le fait tous les jours. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc, en fait, il y a des mesures qui sont anciennes. Après, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est l'encadrement par des militaires, parce que les militaires, c'est pas leur métier. Ils n'ont pas signé pour ça. Voilà. Les militaires, en fait, ils sont là pour veiller, en fait, à la sécurité des citoyens français, etc. Ils sont pas éducateurs. S'ils avaient voulu être éducateurs, ils auraient fait des études d'éducateurs. Donc là, ça me gêne. Et ça, c'est le seul volet sur lequel je trouve que ça n'a aucun sens.
Jérôme Marty, alors, il y a donc deux mesures, hein, phares, l'armée pour les jeunes délinquants. Alors c'est pas la première fois, on va se souvenir de Ségolène Royal qui avait à l'époque parlé d'encadrement militaire, ça avait créé la polémique. On se souvient de Samia Ghali, la sénatrice marseillaise, qui régulièrement a dit qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on ne sait plus quoi faire, on se dit peut-être que l'armée c'est le dernier recours pour sauver ces jeunes délinquants.
Ben, écoute, je suis d'une génération, moi comme toi Olivier, qui a connu l'armée avec des appelés. Donc qui a connu l'appel sous les drapeaux de toutes les générations. Et si ça gênait un certain nombre d'étudiants, parce qu'on avait l'impression, c'est vrai, de perdre un an. Par contre, pour les jeunes qui n'avaient aucune formation, qui étaient un peu délaissés, qui avaient pas de soutien familial, etc., souvent, l'armée était un vrai avantage parce que tu apprenais un métier, tu pouvais passer le permis, tu ressortais avec un certain bagage. Et c'était relativement utile. Le problème,
ça t'ouvrait aussi un peu au reste du monde parce que
ça te socialisait.
Des gens qui bougeaient pas.
Bien sûr. Mais après, on a supprimé donc la conscription, en quelque sorte, enfin, les appeler. L'armée est devenue une armée d'active. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens de prendre en charge les délinquants? On sait qu'elle est appelée partout, l'armée, avec Vigipirate, avec toutes les OPEX qu'on peut avoir à l'étranger, etc. Est-ce qu'on a les moyens de faire ce travail à l'armée? Est-ce que c'est son travail? On a tout un tas d'unités de délinquants avec des gens qui sont formés pour ça. Et là, on va flécher les délinquants vers l'armée. Je sais pas comment ça va se faire.
Mais il va falloir inventer
la vraie
des
question
choses
que je me pose, c'est est-ce que c'est leur boulot?
Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre.
Est-ce qu'ils ont le temps, surtout? Est-ce qu'ils ont le temps? Aujourd'hui, on a besoin de gens qui nous défendent, qui nous protègent. On est dans une situation extrêmement fragilisée.
Tu dis, c'est pas leur boulot.
Non, enfin, c'est ni le boulot, ni le moment, à mon avis.
D'accord.
On a par contre des gens qui sont des éducateurs, qui sont formés pour ça. Il faut peut-être financer cela et en former plus, quoi.
C'est ça.
Mehdi Ghezzar.
Je sais pas, pendant, il y a 4 mois de ça, on n'a rien fait. La France était à feu, tout brûlé de partout, et on demandait au gouvernement en place de réagir, et de réagir vite et de réagir fort. On a une première ministre qui est en train de nous dire, écoutez, moi je pense que, en tant que chef du gouvernement, il faut punir les parents. Excusez-moi, les parents, ce sont les tuteurs légaux de ces enfants-là quand ils sont mineurs. Non. Ce sont les tuteurs légaux de ces enfants quand ils sont mineurs, donc ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs.
Bien sûr.
Leur droit, en l'occurrence, c'est d'avoir des aides, des allocations, des choses, etc. Il n'y a aucun problème. Et ils ont aussi des devoirs, c'est de savoir que leur gosse, quand il est 20h ou 21h et qu'ils ont 14 ans ou 15 ans, ils doivent être déjà chez eux, douchés et prêts à aller au lit pour aller à l'école le lendemain. Ils ont des devoirs, c'est que leur gosse, il ne jette pas des pierres ou il ne brûle pas des voitures. C'est de pas casser des vitrines. Ça, ce sont des devoirs qu'ils ont par rapport à la société.
Oui, d'accord. D'ailleurs, c'est déjà prévu par la loi.
C'est déjà prévu. Donc, à un moment, tu ne peux pas, on est quand même dans un cul-de-sac, parce que tu peux pas mettre les gosses en prison parce qu'ils sont mineurs. Et ils jouent de ça, les gosses, 99% jouent de ça parce qu'ils sont mineurs, donc ils savent comme quoi ils risquent pas grand chose. Et de l'autre côté, tu peux pas punir les parents. Ouais. Et quand on te parle de travaux d'intérêt général, ils te disent, mais moi je suis les parents, je peux pas parce que je suis père isolé ou mère isolée ou j'ai pas le temps ou je travaille. Donc à un moment, il faut juste savoir responsabiliser qui de droit. Tout simplement. Je suis, pour une fois, c'est rare, mais je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement sur cette question. Deuxièmement, on me parle d'armée. Dès qu'on parle d'armée en France, alors peut-être que c'est quelque chose qui est culturel, mais dès qu'on parle d'armée en France, on commence à sortir tout de suite les gilets pare-balles en disant ah, attention, non, l'armée, ça reste l'armée, il faut laisser, qu'est-ce qu'a à voir les gosses avec l'armée? L'armée, c'est pas quand t'envoies ton gosse à l'armée, t'envoies pas ton gosse au goulag, quoi. Il va pas dans un camp où il va pas. Ils vont à l'armée, ils vont dans un cadre. Ils vont apprendre à faire des choses basiques, savoir faire son lit, se réveiller tôt, respecter son supérieur hiérarchique. Voilà, son supérieur hiérarchique, respecter l'autorité. Je sais pas moi, quelque chose de simple. Faire du sport, nettoyer sa place, nettoyer son emplacement.
Mais on est tous d'accord avec ça.
Dès qu'on parle de l'armée pour des délinquants, parce qu'elle a pas dit qu'on l'a envoyé à l'armée tous les gosses de France. Elle a dit les délinquants. Les gros délinquants mineurs. Donc je suis désolé si tu les mets dans un cadre et qu'ils se font engueuler parce qu'ils font pas leur lit au carré ou parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas dit oui chef, et ben peut-être que ça leur fera du bien, et je suis désolé de te le dire, je vais passer encore pour le gros réa qui aime bien l'autorité. De temps en temps,
Mehdi, moi j'ai fait un an d'armée dans un régiment qui peut être appelé de régiment semi-disciplinaire au 126 à Ribes, à Brive, qui était un régiment de l'armée de terre. On avait beaucoup de jeunes délinquants et l'armée les formait et les faisait sortir de ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. La seule question que je pose, c'est est-ce que l'armée a le temps aujourd'hui de faire cette mission?
Mais l'envie aussi,
Une fois de plus, on n'est pas dans l'effet d'annonce. Est-ce que ça va pouvoir être suivi ou est-ce qu'on est juste dans un effet d'annonce?
Il y a une initiative à Mayotte qui démarre en
2020. Ce que j'aimerais, c'est être sûr que que dans ce projet, des militaires ont été associés. S'il y a des militaires de haut niveau qui ont dit à Elisabeth Borne, oui, nous avons les moyens, oui, nous avons la possibilité et l'envie. Parce qu'effectivement, moi, si je m'étais engagée pour être militaire, je ne sais pas si je me serais engagée aussi pour aller encadrer des mineurs délinquants.
Il y a peut-être des militaires qui ont envie de le faire parce que c'est un défi, parce qu'ils veulent aider les jeunes,
ils veulent peut-être qu'il y ait des jeunes.
Il y a des policiers, par exemple, je pense à Bruno Pomar, parce qu'il fait ça avec Red Aventure.
Et peut-être que Bruno,
il le fait avec des jeunes, il encadre des jeunes, il aime ça.
Et je te le dis, peut-être que ces jeunes qui sont justement en train de faire quelques conneries par rapport à leur âge, peut-être qu'aller justement dans un centre où c'est super strict et sévère, peut-être que ça va leur donner une sorte de vocation et qu'ils vont en faire une carrière. C'est très possible qu'une punition devienne ensuite une vocation si elle est bien expliquée, si la punition est bien expliquée. Et ben, c'est possible. Donc ça, voilà. Mais on peut pas rester, excuse-moi Marianne, mais on peut pas rester dans le, on fait rien. On
dans
attend
l'inertie.
Dans l'inertie complète. Non, mais alors on n'a pas le droit de responsabiliser les parents. On n'a pas le droit d'envoyer les gosses en centre pour se faire en quelque sorte, on va dire secouer par une autorité qui est l'armée. Enfin, on fait quoi? Non, on les laisse brûler des voitures?
Mehdi, c'est pas ce qu'on a dit. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est mettre l'accent sur le volet éducatif, parce que derrière, si
ça
ton gamin,
marcher.
Ben non, mais si un gamin, non, mais non, justement, ils y vont plus à l'école. Souvent, ils sont déscolarisés, etc. Est-ce que
donc
c'est pas
la faute
plus?
Des parents.
Mais oui, bien sûr. Mais
on responsabilise les parents.
Parfois, il y a des parents qui sont largués aussi. Mehdi, j'ai dit que j'étais d'accord sur la responsabilisation renforcée des parents. Ça, c'est la première chose. Mais sur les enfants, avoir un volet que répressif, qui serait un encadrement, etc., sans avoir le volet éducatif et social, c'est-à-dire on va te former à un métier, et pas forcément le métier de militaire, mais ça peut être n'importe quel métier. Moi, j'aurais plus tendance à dire mettons-les dans des centres où ils vont apprendre des... Oui, mais c'est le travail des éducateurs.
Mais ça existe.
Mais oui, mais
c'est il faut juste les financer.
Voilà, et mon problème, il est plutôt là.
On va encore dire qu'il n'y a pas de
problème. C'est les reprendre en main et les ramener vers...
Et dans les CFPA, on va dire qu'encore, il y a un manque de moyens. Donc à chaque fois, c'est un manque de moyens. Donc, c'est toujours la faute de qui? Des gouvernements successifs.
Moi, je pense
par rapport à l'éducation. Marie... Ça veut dire que vous êtes en train, à chaque fois.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
C'est un manque de moyens, c'est un manque d'éducateurs, c'est un manque de ci, c'est un manque.
Mais
non, donc c'est pas un manque d'éducation des parents. Donc c'est pas un manque d'éducation des parents.
Mais j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Mais Marianne Soubret, Jérôme Marty, Mehdi Guézard, moi, ce qui m'a quand même frappé dans cette histoire, c'est que les jeunes émeutiers de juin 2023 étaient encore plus jeunes que les ceux de 2005.
Oui,
il y avait même des gamins de 11-12 ans.
Ouais, c'est ça.
Ils vont quand même dans la rue. Alors on sait qu'au début c'était pour Naël, mais très vite c'était quelque chose de l'opportunisme.
Ouais, c'était pour
c'était parce que c'était sur les réseaux sociaux. C'est comme un jeu en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. On se filme, on lance des défis. Je me dis, il y a 11-12 ans, ils ont pas peur du tout des policiers.
Oui, et puis les parents ont plus la main dessus.
Les parents n'ont plus la main dessus. Ils ont pas peur des policiers. Ils ont pas peur d'aller dans la rue, défier l'autorité. De se retrouver d'ailleurs eux-mêmes peut-être en danger pour eux-mêmes, parce que on ne sait pas comment ça se termine ce genre d'histoire d'émeute. Enfin, c'est
oui,
quand même
là,
donc ça, excusez-moi,
Olivier,
ça va au-delà des moyens. Moi je veux bien qu'il n'y ait pas assez de moyens,
mais
il y a un problème.
Olivier,
non, mais il y a un problème de société par rapport à l'autorité.
Mais
c'est à dire que comment en veux-tu, et je pense aux profs, si ces gamins sont capables de faire ça, aller dans la rue face aux policiers, comment un prof dans sa classe peut avoir l'autorité sur ses gamins?
Mais on est
si ses gamins finalement n'ont peur de rien.
On est bien d'accord, si tu veux, mais quand tu vois cette génération-là dont tu parles, ces jeunes de 11, 12 ans, 13 ans, l'armée n'a pas de formation pour s'occuper de gosses aussi jeunes. Par contre, il y a des éducateurs spécialisés qui l'ont, cette formation. Donc si tu veux,
les éducateurs, ils sont là, visiblement.
Quand tu discutes avec eux, ils te disent tous, on n'est pas assez nombreux, on n'arrive plus à faire face. On a des gosses extrêmement violents.
Oui, mais ça, on dit ça pour
si
tout.
Si tu veux, on a besoin d'adaptation.
Est-ce que les mots, peut-être, mais j'ai l'impression
un vrai métier,
que
ces gens,
c'est toujours un peu la réponse facile, donnez-nous plus de moyens.
Non, c'est pas ça que je dis, Olivier. Je dis qu'ils ont un vrai métier, qu'il faut peut-être s'appuyer sur eux et leur demander ce qui va pas et comment on pourrait améliorer les choses, quoi.
Alors, dans un instant, Daniel est avec nous au 32-16. Il veut nous faire part de son expérience personnelle parce qu'il a grandi dans des quartiers compliqués. Il va nous dire si les mesures proposées par Madame Borne sont les bonnes. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
9h30.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Allez, ça a repris, hein. Midi, il est debout. C'est ça, les grandes gueules. C'est pendant la pub, on discute de tout. Là, on parlait de PSG.
Mille excuses. On parlait de PSG Milan.
D'un vrai club de football.
Non, tu parlais, en fait, du jeu de jambes de Mbappé, plus
exactement.
Précisément.
Exactement. J'avais été au parc et j'étais impressionné. C'est pas seulement le jeu de jambes, c'est comment ce joueur est vraiment le patron de l'équipe. C'est-à-dire que c'est lui
qui parle.
Qui place, qui parle, il fait des appels de balles, il a une motivation. Et je comprends pourquoi Didier Deschamps l'a choisi comme capitaine de l'équipe de France. Il ne l'est pas au PSG parce que historiquement c'est Marquinhos. Et bon, c'est pour des raisons diplomatiques, on ne va pas changer. Mais c'est vraiment le boss.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Et quand tu es dans le stade, tu le vois mieux qu'à la télé parce que la télé, tu le vois, tu suis le ballon, quoi. Voilà. Bon, bref, je vois pourquoi on parle de ça parce que c'est pas du tout le sujet du moment.
On parle
l'encadrement militaire pour les enfants délinquants, des TIG pour les parents défaillants. Ce sont les propositions choc faites hier par Madame Borne. Qu'en pensez-vous? On va donner la parole à Daniel, si vous voulez bien, qui nous attend au 32-16. Il nous appelle d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Daniel.
Bonjour à tous.
Bonjour Daniel.
Vous êtes un ancien jeune de ces quartiers, c'est ça ?
Exactement.
Aujourd'hui, vous avez plutôt bien réussi, si je comprends bien, vous êtes chef d'entreprise ?
Oui, chef d'entreprise, j'ai une trentaine de salariés.
Très bien. Et alors, que pensez-vous des mesures de Madame Borne ?
Alors moi, je vais être clair. Je vais déjà brosser une situation. Je viens dans un quartier des prioritaires, même très difficile. J'ai grandi avec deux sœurs, un frère. Donc on était quatre à la maison. Et une maman qui était seule avec nous quatre. Voilà.
Et le papa n'était pas là.
Ah non, pas de père, donc pas de repère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on essayait, mais on avait le grand repère qui était la maman. Mmh. Et pour être clair avec vous, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, on va dire du temps, c'est-à-dire que ça a été très difficile, le quotidien était très difficile, les repas très difficiles le soir. Le midi, ma mère qui n'avait pas de quoi payer la cantine de l'école, il a fallu faire des petites bêtises le midi, si vous voyez ce que je veux dire, pour aller pouvoir grignoter. Mais par contre, je ne lâchais pas parce que j'avais quelques repères où ma maman me disait toujours « fais très attention, ne fais pas de conneries, ne fais pas de bêtises ». Et j'avais un frère qui n'écoutait pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que lui, avec ses conneries, on a fait tellement que on avait la police qui arrivait en pleine, en pleine journée, en pleine nuit, enfin bon, qui arrivait, à chaque contrôle, on mélangeait, c'est-à-dire que même moi, on considérait que j'étais même un délinquant, parce que mon frère était très connu des services de police, voilà. Mais par contre, une mère qui ne lâchait pas, c'est-à-dire qu'elle nous accompagnait, qui voulait pas abandonner, qui me levait le matin pour aller à l'école, qui lâchait pas, qui faisait la même chose avec mon frère, qui essayait de faire tout ce qu'elle pouvait. Lui, malheureusement, a fait des bourdes, n'est pas allé, n'a pas vraiment écouté. Mais moi, le seul phare, le seul guide que j'avais, c'est-à-dire ma mère, bien grâce à elle, j'ai pu aller faire de très longues études. J'ai eu un bac, ça a été difficile, mais j'ai réussi à l'avoir. J'ai eu un DEUG, une licence, même deux licences. Après, une maîtrise. Enfin, moi, j'ai continué. J'ai même eu un diplôme d'ingénieur, pour vous dire jusqu'où elle ne m'a pas lâché. Et le problème, c'est que derrière, mon frère a eu les conséquences de ses actes, ce qui est normal et légitime. Mais d'ailleurs, vous imaginez, si on reprend la même situation, qui en la place à aujourd'hui. Vraiment, on met dans la même situation.
Ouais.
C'est-à-dire que mon frère aurait été sanctionné. Bravo, félicitations, c'est normal. Et c'est totalement normal. Il n'y a pas de discussion à avoir. Mmh. Une sanction est une sanction, elle doit s'appliquer à toute personne qui ne respecte pas les règles. Maintenant, vous imaginez si ma mère derrière avait eu des conséquences.
Daniel,
je comprends ce que vous voulez dire.
Mais je veux donner une précision.
Non, il y a votre mère.
Justement.
Si ma mère était dans la même situation.
Non.
Si j'avais été dans la même situation, ma mère aurait été sanctionnée, aurait eu du TIG. Attendez, je termine, madame. Je vais vous écouter, vous allez voir. Mais ma mère aurait eu du TIG. Puis derrière, en termes de, vous imaginez dans la tête de mes deux sœurs et de moi-même, qui avons réussi, les trois autres. Mais vous imaginez, on aurait eu ce sentiment de se dire, elle a été sanctionnée elle aussi. Et donc, vous imaginez, le seul phare, le seul guide, c'est que moi, je me serais retourné dans cette histoire en me disant, ça ne sert à rien. Mon seul phare, mon seul guide, mon seul repère, aussi est sanctionné.
Daniel, si vous permettez.
Ce que j'aurais fait, je vais vous dire tel que je le pense. Je pense que je ne serais pas assis là en train de discuter avec vous.
Daniel.
À gérer 30 salariés. Madame,
ce que vous dites est erroné, en fait. C'est pour ça.
Non, pas du tout. J'étais éducateur. J'ai été prof pendant 6 ans. Ensuite, j'ai lâché, je me suis dit, je vais être chef d'entreprise parce que je pense que c'est par le travail. On ne lâche rien. Donc, en tant qu'éducateur, j'ai vu les galères et les dérives des années 90-2000 où il n'y avait plus rien, il fallait faire avec ce qu'on avait. J'ai été prof, j'ai vu les dérives aussi d'avoir un salaire qui était le même que tout le monde et un petit salaire, et il fallait s'en sortir. Et c'était pas très compliqué, c'est là où j'ai abandonné.
Est-ce que je peux vous répondre, Daniel? Depuis tout à l'heure, vous partez du principe que votre mère aurait obligatoirement été sanctionnée dans la situation actuelle, elle serait obligatoirement sanctionnée. En fait, c'est une erreur. Parce que vous pensez que la sanction des parents, elle est liée, la sanction pénale, le TIG, etc., elle est liée à l'acte de délinquance de l'enfant. Elle est liée, en réalité, au délaissement de son enfant. Et quand vous avez quatre enfants, le juge, il est pas idiot, il va regarder s'il voit que dans les quatre enfants, il y en a qu'un qui a un problème, il va jamais dire à la personne, vous êtes une mauvaise mère. Il va lui dire, on va vous aider parce qu'on voit bien que les trois autres, tout va très bien. Et on va vous aider pour celui-ci. Et celui-ci, il y aura des mesures d'accompagnement, peut-être avec un juge des enfants, etc.
Donc sa maman n'aura pas été sanctionnée. Est-ce que tu me confirmes qu'on ne peut pas pénalement condamner des parents pour ce que les enfants ont fait.
Jamais.
Dans, en droit, on est condamné uniquement pour ce qu'on a fait. En revanche, civilement, on peut l'être.
Voilà,
civilement. On peut payer la réparation.
Donc, juste Daniel, je termine.
Et je vous remercie. Alors, je vous écoute.
Civilement, oui, on peut toujours être condamné pour les actes commis, enfin, pour réparer les actes commis par ses enfants. Par contre, la condamnation, donc, ce qu'on appelle le TIG, la condamnation pénale, elle est liée au fait d'avoir délaissé son enfant. Donc, c'est autre chose.
Donc votre maman n'a pas délaissé ses enfants.
Elle n'a jamais délaissé ses enfants.
Un élément de réponse.
Allez-y, Daniel. Oui.
Donc voilà, je vous ai bien écouté. Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ma maman, à un moment donné, on avait marre, et c'est normal. À un moment donné, il faut se mettre dans la tête d'une mère de famille seule avec des gamins, dans lequel il y a un gamin qui n'écoute pas, qui est borné, qui vient, qui ne vient pas, qui dort, qui ne dort pas, qu'on ne voit pratiquement pas dans la semaine, mais quand il arrive, ben une mère c'est une mère, le cœur sur la main.
Donc Daniel, excusez-moi, ça vous aurait pas dérangé,
Je vais juste terminer, je vous prie. Derrière ce gamin, donc ma mère, à un moment donné, n'allait plus aller, elle n'allait plus dans les réunions scolaires, elle n'allait plus voir les profs de mon frère pour savoir ce qui se passait. Donc là, on va considérer que c'est du délaissement. Sauf qu'elle lâchait pas.
Parce que la justice, la justice justement, elle fait du cas par cas.
Elle regarde la famille en entier.
Je pense Daniel, que ça n'aurait pas dérangé votre maman, justement, qu'elle soit aidée, que votre frère, au lieu d'avoir des problèmes avec la justice, soit géré par une structure militaire qui est beaucoup plus rigide et dur. Je pense que ça aurait été aussi une solution où il y a 30 ou 40 ans de ça, pour vous, ça aurait été une solution adéquate pour régler justement beaucoup de problèmes.
Alors, on remercie Daniel et on accueille Grégoire au 32-16. Bonjour Grégoire.
Oui, bonjour.
Vous avez vu Béziers dans l'Hérault. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une bonne idée, par exemple, de responsabiliser les parents avec ces TIG, ces travaux d'intérêt général, pour les parents qui, finalement, n'ont pas fait leur devoir éducatif?
Moi, je trouve enfin une bonne résolution, peut-être du gouvernement. Je pense qu'il est totalement légitime de sanctionner ce genre de problème, dans le sens où je peux comprendre des parents sont mères au foyer, enfin une maman qui est mère au foyer, et un monsieur qui travaille ou peut-être qui ne travaille pas, parce que c'est quand même généralement des fois le cas, sont toute la journée au café et il faut pas s'étonner si après les enfants n'ont pas de responsabilité, à 13 ans sont totalement délaissés. Je pense que la meilleure solution, c'est de prendre conscience aux parents, et malheureusement aujourd'hui dans la conjoncture qu'on est, la seule façon de faire prendre conscience, c'est de taper au portefeuille, et je trouve ça totalement normal de résumer de ce principe là.
D'accord, merci Grégoire, donc vous êtes plutôt favorable. Merci Grégoire d'avoir appelé au 32-16. Je voudrais qu'on écoute aussi Jean-Michel, parce que son fils a fait partie des émeutiers et il n'a pas vu venir les choses. Jean-Michel, il va nous raconter. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel.
Sachez que je vous kiffe tous, je vous écoute depuis des années, je vous écoute.
C'est
et me
sympa.
Voilà aujourd'hui à vous expliquer ce qui s'est passé pour mon fils. Bah écoutez, ils sont
venus chercher
à 6h du matin, on a vu la police débarquer, on était vachement surpris tous. Ma fille est toujours à la maison, qui travaille aussi. On est une famille aimante et moi j'ai grandi à La Courneuve, j'ai tout fait pour sortir mes enfants au maximum des quartiers difficiles, ayant connu tout ça. Et franchement j'ai été bouleversé de ce truc-là, parce que je voulais pas que mon fils connaisse tous ces méandres de la justice et compagnie. Et évidemment ça n'excuse en rien les actes qu'il a pu commettre.
Qu'est-ce qu'il a fait en fait?
En fait, sa maman et moi, on est partis pour une fois, on est partis ensemble en vacances cette semaine-là. Et quand on a vu l'image du jeune Naël avec ce policier qui est intervenu vraiment gravement sur ce jeune-là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça va exploser. Ça me rappelle, en plus, même moi, ça m'a rappelé vraiment des années très compliquées qu'on a pu connaître aussi dans le passé. J'ai dit, ça va péter. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, surtout, tu bouges pas. Et malheureusement, ce soir-là, il a été mangé avec un ami. Ils ont été mangés un kebab, comme beaucoup de jeunes font. Et ça bougeait de partout, apparemment, dans le quartier. Il a été entraîné là-dedans. Et sachant aussi que c'est un jeune qui a un casier vierge. Hein.
Ouais.
Et
en plus, en recherche d'emploi, il a obtenu son bac dernièrement, tout ça. Donc, vraiment.
Et alors, il s'est retrouvé à faire quoi alors? Il a été un peu entraîné par les autres et il a fait quoi alors?
Et du coup, ils se sont pris au commissariat le commissariat du quartier. Il y a eu deux voitures de cassées. Effectivement, les dégâts se montent à des c'est énorme, quoi. Je veux dire,
il a quel âge, votre fils?
Et mon fils, il a eu 18 ans au mois d'août, en fait. Il était mineur au moment des faits.
Donc c'était juste avant ses 18 ans.
Mais comme j'ai dit au commissariat, quand j'ai fait ma déposition, j'ai dit, écoutez, je suis responsable, j'étais pas là. Si j'avais été là, je l'aurais peut-être empêché de sortir, effectivement.
Peut-être pas, parce qu'il serait peut-être parti manger un kebab avec son copain, même si vous étiez là.
Oui, ça. Mais je veux dire, le profil, ce que je voulais vous dire aussi, les gens.
Oui, c'est un profil, c'est pas un délinquant au départ, il n'a pas de casier.
Et comment il l'explique, en fait?
C'est un jeune du quartier, vous le voyez dehors, vous pourriez vous dire, il est en survêtement, tout ça.
Mais Jean-Michel, comment il explique, votre fils, d'avoir fait ça, justement, parce qu'il n'a pas de casier?
Lui, il a été comme moi, en fait, c'est-à-dire que, parce qu'on se ressemble beaucoup, mon fils et moi, émotionnellement, il a été frappé par l'image de ce policier quand il a tiré, parce que je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, pour nous, les jeunes de quartier, même si...
Il s'est un peu identifié, en fait, à ce jeune.
On se rappelle de choses négatives sur la police. Il y en a des positives, il y a des très bons policiers. Mais n'oublions pas qu'à cette période-là, au niveau de l'information, on a été bombardés, on a été émotionnellement, touchés par cet acte. Vous comprenez? C'est une image. Une image, c'est comme une balle. Vous comprenez? Donc, tous ces jeunes-là, quelque part, je les excuse pas, attention, brûler des écoles, brûler des médiathèques, brûler des commissariats, tout ça, c'est inexcusable. Bien sûr que c'est inexcusable. Et nous, les parents, on est responsables de nos enfants. J'étais pas là ce jour-là. Mais c'est vrai que cette image de ce policier qui tire à bout portant, imaginez-vous ce qui se passe dans la tête des gamins avec les réseaux sociaux.
D'accord, mais Jean-Michel, moi je vois ça.
Les réseaux sociaux.
Bien sûr, il a été entraîné, il se sentait, il s'identifiait un peu à Naël, les réseaux sociaux, mais il a pris combien alors? Il a été condamné?
Non, pour l'instant, il y a un jugement qui va être
fait
d'accord. au tribunal de Bobigny, mais je peux vous croire, je peux vous dire qu'il a vraiment pris du fer. Déjà, rien que pour la garde à vue, le fait que ses parents, à 6h du matin, le voient se faire menoter.
Il n'était pas fier.
Vous voyez, évidemment. Et puis surtout, comme je vous dis, c'est un gamin qui a un casier vierge. Il n'a pas fait, il n'a jamais fait. Nous, ses parents, on est une famille aimante.
Donc vous dites que c'est il ne refera pas la même erreur, c'est-à-dire qu'il a compris, quoi.
Ah ben là, déjà, moi, activement, derrière, je pousse au maximum. Moi, j'ai tout fait pour que mes enfants grandissent dans un environnement sain. Même si je suis encore en Seine-Saint-Denis, vous avez des quartiers en Seine-Saint-Denis. Il ne faut pas croire que la Seine-Saint-Denis, c'est tout pourri. Hein.
Vous le dites, ça peut basculer d'un moment sur l'autre.
On a des milieux associatifs magnifiques, on a des terrains de sport magnifiques. Il a toujours fait du sport. J'ai tout fait pour lui, tout fait. Mais ce jour-là...
Oui, mais Jean-Michel... C'est ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas un parent défaillant et que vous-même vous avez été complètement. Bien sûr, ça existe. Mais faire des conneries mineures, dans tous les milieux, ça arrive. Les jeunes, parfois, on ne sait pas, ils peuvent être entraînés, etc.
Et dans les milieux aisés, beaucoup plus que dans les milieux pauvres.
Voilà,
sachez-le.
Ah oui, bien sûr. Et c'est pas parce que les parents sont pas là ou pas. Et parfois, les parents sont même stupéfaits de ce qu'ont fait leurs enfants. Donc, est-ce que Jean-Michel, il doit être condamné, il doit être
Civilement, il devra certainement payer. Enfin, ça, c'est la loi. Ouais. Hein, donc,
vous êtes prêts? En fait, on va vous demander de réparer une partie des...
Oui, alors, il faut jouer l'assurance habitation, je vous le dis. Vous devez avoir un avocat.
Pour le commissariat.
L'assurance habitation, en fait, des parents, quand ton enfant mineur vit avec toi, elle comprend aussi la responsabilité civile des mineurs qui vivent avec toi. Et on le sait assez peu, mais en réalité, tu peux faire payer ton assurance habitation à réparer les dommages, en fait.
Réparer le commissariat.
On est assuré pour ça.
D'accord. Jean-Michel, vous saviez ça?
Je ne sais pas, je verrai. Il y a une avocate qui était commis d'office qui était très très bien. J'ai gardé son numéro.
Mais voyez ça avec elle.
Je verrai ça, mais tout ça, c'est désolant. On vit dans une société de plus en plus quand même assez violente. On voit ce qui se passe aussi.
Est-ce qu'il est beaucoup sur TikTok? Parce que il faut quand même préciser, contrairement à 2005, depuis les réseaux sociaux se sont fortement développés, et notamment c'est TikTok qui a joué un rôle très important dans ces soirs-là. Ouais. Parce que sur TikTok, on a diffusé. Il y a même eu des influenceurs. J'entends un spécialiste m'expliquer ça. Il y avait des influenceurs entre guillemets d'émeutes. C'est-à-dire que certains qui ont poussé les autres. Et ceux-là, on ne les a pas attrapés d'ailleurs. Parce qu'ils
étaient. Et comment
pas
on l'a retrouvé d'ailleurs, le fils de Jean-Michel?
Jean-Michel, on l'a retrouvé comment, votre fils?
Tout bêtement, sa mère, elle lui dit tout le temps, elle lui dit, quand tu sors, t'es filmé. Vous avez la réponse. Vous avez des caméras partout. Il semblerait que entre les jeunes du quartier, il y avait une rumeur comme quoi ils avaient coupé les caméras. J'ai dit, bah, vous êtes bien cons, les gars. Vous êtes vraiment bien cons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais moi, vous savez, j'ai vécu une expérience aussi assez douloureuse, c'est-à-dire que le parcours du père qui va au tribunal de Bobigny, qui voit les mamans qui, elles, vivent seules, avec des petits salaires, en larmes, toute la journée, en attendant au tribunal d'enfants, en voyant des mamans avec, vous voyez, des enfants qui sont arrachés à leur mère au tribunal d'enfants, vous voyez tout ça, vous vivez un truc pendant 3-4 jours infernal.
Comment il le vit votre fils ça, maintenant?
Dernière question.
À distance.
Ah, il a pris du fer. Il a pris du fer et surtout que à la maison.
Dans ce cas, c'est-à-dire que pour lui,
dans sa tête, quoi.
Il est déjà condamné, quoi, en fait. Merci Jean-Michel, merci d'avoir été avec nous pour nous raconter l'histoire de votre fils qui a participé aux émeutes et à la destruction de ce commissariat. Alors, on vous posait la question ce matin, les jeunes délinquants encadrés par l'armée, est-ce que c'est efficace ou non selon vous? Quelle est la réponse sur le compte X des GG? Voilà. Eh bien, c'est oui à 67,8%. C'est assez clair. Hein. C'est 2/3 oui, 1/3 non, 32,2% pour le non. Donc, vous êtes plutôt envie d'essayer, quoi, de voir si ça fonctionne.
Quelque chose.